bienvenue au Polysécure, épisode dédié pour plus les PME. Je suis avec Emeline.
Bonjour Nicolas Loïc.
Ça va bien?
Ça va super bien et toi-même?
Très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler, dans ce mois de cybersécurité, de la navigation web, puisque c'est rendu essentiellement un incontournable. Maintenant, on en fait tous. Peu importe comment on le fait, on en fait. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans qui sont importants à considérer au niveau de la sécurité, dont l'usage du navigateur web lui-même, qui est dans le fond l'outil pour accéder au contenu.
Ouais, et puis même si tu me le permets, j'aimerais vraiment ça faire une distinction entre le navigateur web qui va être le sujet principal de ce qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi avec le moteur de recherche. On a vraiment tendance à mélanger ces deux concepts, peut-être à raison, peut-être à décortiquer. Donc on mélange souvent le navigateur web et le moteur de recherche. Le navigateur web, c'est le logiciel qui est installé sur notre ordinateur qui permet d'accéder à Internet. Donc à contrario, le moteur de recherche, lui, par contre, c'est l'outil qu'on utilise une fois qu'on est sur ce logiciel pour effectuer nos recherches. Puis j'aime bien, tu sais bien que j'aime bien faire des petites analogies. Donc là, je vais prendre un petit pirate. Donc on va imaginer qu'on est un pirate. On est un petit pirate solitaire. Puis on a perdu notre équipage, mais on a trouvé un bateau à moteur encore pas trop mal en point pour aller trouver notre trésor tant convoité. Puis voyez, il faut voir le bateau de ce pirate-là, voir le bateau comme notre navigateur, comme l'outil, comme le logiciel qu'on utilise pour naviguer sur la mer des Caraïbes, si on reste dans notre concept. Et le moteur de ce bateau, ben lui, c'est la machine, c'est le moteur qui nous permet d'avancer et de partir à la recherche de notre fameux trésor. Donc, qu'est-ce que tu penses de ma petite analogie?
Très intéressant, effectivement. Puis ces confusions-là sont même plus larges que ça. Pour certaines personnes, l'Internet, c'est Facebook. Donc, on a cet amalgame-là. Là, avec le navigateur de web, c'est encore même plus évident parce que la plupart des navigateurs, il est le moteur de recherche, parce que le moteur de recherche est souvent inclus à même le navigateur. Puis si on va prendre l'exemple de Chrome, ben c'est sûr que on a par défaut dans la barre de choses où on inscrit l'adresse, mais on écrit une recherche et on nous amène automatiquement sur Google. Fait cette Google, l'engin de recherche. Donc, c'est vraiment, elle est très induite, cette confusion-là. Et puis, elle est très importante à comprendre aussi que quand on fait une recherche, on consomme un service sur Internet versus le navigateur qui est notre bateau ou notre élément dans lequel on navigue avec pour se rendre jusqu'au dit moteur ou notre trésor.
Oui, exact. Puis justement, là, on parlait de le logiciel Google Chrome que la plupart des gens vont utiliser encore aujourd'hui. Mais quand j'utilise Google Chrome, donc ce petit logo avec ses quatre couleurs, du bleu, du rouge, du jaune, mais quand je l'utilise, lui, rien ne m'oblige à utiliser par contre le moteur de recherche Google. Ça, je pourrais changer dans mes paramètres, choisir d'utiliser quelque chose d'autre complètement. Il y en a plusieurs qui existent. Le plus connu va être notre petit canard, hein, qui est le DuckDuckGo, qui vient vraiment protéger plusieurs choses, plusieurs éléments de la vie privée, de nos connexions, de nos recherches et tout. Il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête de ton côté?
Non, moi, le seul moteur alternatif que j'utilise, c'est DuckDuckGo. Étant donné que c'est le plus connu, du moins, au niveau de protection de la vie privée. Sinon, ben, on peut avoir, si on est moins protégé, ben, c'est vrai, il y a Bing qui vient avec Edge maintenant sur Windows. Mais encore là, si on voit le même approche de Microsoft, c'est de pousser son propre engin de recherche, comme Google, de pousser son propre engin de recherche à travers son navigateur.
Ouais, c'est vraiment dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un moteur de recherche que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Ecosia, Ecosia. Donc, je vais en parler vraiment brièvement, mais il y a des avantages et des inconvénients, comme tout dans la vie, mais c'est un moteur de recherche qui a un supplément éthique. Donc, chaque recherche effectuée contribue à la plantation d'arbres. Donc, je trouve ça intéressant, je trouve ça très chouette, mais comment est-ce que ça fonctionne? Et là où ça me plaît peut-être un petit peu moins, c'est que les recherches qu'on fait sur le web avec Ecosia, ben, il y a des publicités qui sont liées aux recherches, qui génèrent des revenus et eux, ils s'en servent donc ensuite pour planter des arbres. Mais bien sûr, de mon côté, un petit bémol là-dessus, ici, la publicité, c'est ce qu'on va en parler, mais ce qu'on cherche peut-être plus à éviter. Donc, c'est dommage, mais c'est quand même aussi intéressant de voir qu'il y a des initiatives qui existent, qui sont peut-être moins centrées vie privée, mais plus côté éthique, planète, la Terre et tout. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler. Quant aussi, Quant est connu. Il y a eu du plus, du moins aussi à travers le temps, mais c'est toujours intéressant. Puis l'idée derrière, c'est de se dire, quand je fais une recherche ou quand je navigue sur Internet, quelles sont les traces que je veux laisser? Les mots-clés, souvent, ça va être justement ces cookies, les cookies, les trackers, les caches. Ça aussi, c'est un petit peu confondu tout ça, mais c'est principalement ça qui nous concerne. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, il y a pas vraiment d'enjeu. Puis là, on parlait de Dr. Go, mais c'est même lui-même a certaines problématiques associées à ces composants-là. Parce que quand on vit dans un monde de gratuité dans lequel on était habitué sur Internet, c'est malheureusement mal connu, mais faut se rappeler qu'on est le produit, on n'est pas le client de l'élément. Donc, il y a peut-être une réflexion au niveau de la gratuité associée à cette consommation de ces services-là qui peut-être devrait être changée pour justement nous débarrasser de la publicité, qui est un modèle qu'on avait avec la télévision et la radio ou les médias ou la gratuité des émissions. Puis encore là, il y a une limite à la gratuité parce que quand on paye le câble ou on paye notre abonnement à Netflix, on finance quand même ce genre de choses-là. Mais au-delà de ça, la publicité était l'autre moyen pour financer ces éléments-là qui étaient un peu plus gratuits qu'on va retrouver sur les postes de télévision qui existent encore en hertzienne où on n'a pas vraiment d'abonnement. Donc, c'est un poche. Donc, ils ont remis ça en web, mais là, le problème en web, c'est que là, on a une capacité de traquer, de suivre les gens énormément. Puis là, ça devient un problème. Là, on le voit en publicité, ces éléments-là, dont on a des éléments de publicité très, très ciblés. Puis ça, il y a des... Au-delà de la publicité ciblée, il y a eu tout le volet de changement des habitudes parce qu'on se fait bombarder de choses. Puis on a des publicités ciblées, oui, pour des produits, mais des publicités ciblées aussi pour des partis politiques ou des éléments comme ça qui sont peut-être à ce moment-là un peu plus difficiles, en tout cas plus éthiquement plus questionnables sur comment cette information-là est utilisée et comment elle est utilisée pour influencer notre comportement.
Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes parce qu'effectivement, ça vient un peu nous enfermer dans une bulle aussi, hein, la publicité ciblée, / les algorithmes, / ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui nous sont proposées et qu'on est susceptible d'aimer. Donc à ce moment-là, ça nous enferme dans une bulle et puis on n'est plus confronté à des informations qu'on est susceptible de ne pas aimer mais qui viendraient peut-être un petit peu tempérer notre propre point de vue. Je reviendrai peut-être justement sur la publicité ciblée. C'est quoi une publicité ciblée? On parle de ça, mais concrètement, à quoi ça ressemble? Ben, c'est quand on recherche typiquement un billet d'avion pour aller à Cuba. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, la thématique des Caraïbes et Cuba, un peu de soleil dans ce temps qui devient un peu plus gris, mais je recherche un billet d'avion pour aller à Cuba et qu'après, je vois de la publicité partout sur des voyages dans le sud ou des assurances de voyage. Pareil, je sais pas, j'ai des petites fourmis chez nous, puis là, je cherche pour un exterminateur, puis après, toutes les publicités que je vois, ben, ça va être en lien avec des exterminateurs. On a la coche un petit peu plus, qui fait un petit peu plus peur aussi de dire, j'ai parlé avec quelqu'un dernièrement, j'ai parlé avec mon conjoint de quelque chose, puis j'ai juste parlé. J'ai pas fait une recherche, mais mon téléphone m'a écouté. Puis j'ai de la publicité ciblée ensuite, donc ça fait un petit peu plus peur. Mais et pour que ce soit possible, les plateformes vont collecter un maximum de morceaux de mon puzzle. Je reviens avec cette analogie que je fais depuis un petit moment de dire que Internet c'est un puzzle, puis que à chaque fois qu'on fait une recherche, à chaque fois qu'on poste quelque chose en ligne, on laisse des petits bouts de notre puzzle. Ben à ce moment-là, les plateformes vont collecter un maximum de morceaux de mon puzzle sur mes habitudes en ligne, mes déplacements, pour me montrer d'autres choses que je suis susceptible d'aimer. Donc, la publicité ciblée, c'est comme des petits espions. À quoi ils servent, ces petits espions qui scrutent le moindre de nos mouvements? Ben, principalement, si on reste dans un état d'esprit positif, mais on va venir après dans les inconvénients, mais c'est de nous faciliter la vie, à nous montrer des choses qu'on va aimer. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que mes informations sont aussi revendues à d'autres entreprises qui veulent aussi me proposer des articles ou des services que je suis susceptible d'aimer. Mais concrètement, ça revient un petit peu toujours à la question de nos auditeurs, le « What's in it for me ?» Ben, tu sais, Emeline, Nicolas Loïc, à quoi ça nous importe de parler de ça? Ben, concrètement, pourquoi ça nous concerne? Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le contrôle sur la revente de nos données et à qui elles sont revendues. Qu'est-ce que j'en sais si elles sont pas revendu à des personnes qui sont mal intentionnées, à des personnes qui vont me cibler avec de la publicité frauduleuse, puisque ces personnes ont une excellente idée de mon persona, de mes préférences, de ce que j'aime, de mes centres d'intérêt. Donc, c'est un petit peu tout ça, pourquoi ça nous concerne. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, ça nous concerne parce qu'on doit être capable de comprendre à quel point notre information est rendue disponible et elle est accumulée par ces engins de recherche-là et les services sur le web. D'ailleurs, j'écoutais justement ce matin même, là, c'est Mike Espinoza qui parlait qu'une personne sur TikTok venait de se rendre compte à quel point Amazon, puis on parle juste d'un fournisseur, collecte de l'information sur cette personne-là. C'est sûr que la personne avait beaucoup de services Amazon, avait Alexa et ainsi de suite, avec toutes ces affaires-là. Donc, elle s'est rendue compte. J'ai pas le souvenir exact de ce qui avait été mentionné dans l'épisode et ce que la personne a fait. Mais de toute apparence, je pense qu'elle a fait une demande d'information à Amazon et Amazon a envoyé toutes les informations qu'elle avait sur elle. Fait qu'elle a vu toutes ses habitudes d'achat. Elle a vu sa géolocalisation. Elle a vu des clips, 3000 clips vidéo, vidéo audio de Alexa. Donc, tous les bouts de parole qu'elle a dit, tout ce qui est enregistré par Alexa, et c'est conservé. C'est ça qui devient excessivement épeurant, ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'on ne le voit pas, puis ça nous touche pas, ce genre de choses-là. Fait que c'est très épeurant. Puis, il y a donc des moyens, des habitudes à changer. Là, on va parler du navigateur web dans cet épisode-ci, pour toucher ce genre de choses-là. Comment Amazon, à travers notre navigation, comment Google, à travers notre navigation, tire des conclusions sur qui on est. C'est le fun d'avoir la publicité ciblée, comme tu disais, parce que ouais, ça a des avantages, tout ça. La réalité, c'est peut-être un peu épeurant, là, comme tu mentionnais justement, que tu as eu une discussion. Ça, il y a des... Je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il a vraiment écouté ce que tu as dit, à moins que tu aies un Alexa chez toi. Mais normalement, si tu n'as pas d'Alexa ou tu n'as pas de Google Home, la probabilité que tu sois entendu, elle est plus faible. Mais c'est plus parce que tu as probablement eu des recherches parce que ça traîne dans ta tête... sur Facebook, puis là, c'est le croisement. Facebook a vu, a partagé avec Google, a partagé, fait qu'à ce moment-là, tout ce monde, cet univers-là vient créer un profil complet sur nous. Et ensuite, ben là, qui vient nous influencer, là, plus comme je mentionnais tantôt. Là. Puis c'est aussi toute l'importance d'adopter des habitudes, de saines habitudes. C'est pas évident. Il y a le mode incognito, entre autres, dans les navigateurs qui permettent d'atteindre une partie de cet élément-là.
Ouais, c'est le mode incognito aussi. On a beaucoup de fausses croyances, beaucoup de mythes au travers de ce mode incognito-là. Et je vais ouvrir cette parenthèse-là, puisque poursuivre cette parenthèse-là que tu as ouverte. Donc, c'est un peu le mode incognito, la navigation privée. On revient, si je reviens plus au risque de fraude, on sort du gros méchant petit espion et on revient aux fraudes. Lorsque la navigation est privée, lorsque c'est activé, mon navigateur ne va pas enregistrer les sites visités, donc il ne va pas les enregistrer dans mon historique et il va ne collecter aucun cookie. Mais c'est tout, ça nous rend pas non plus invisible sur Internet. Donc il y a quand même du plus, parce que on l'a dit, les cookies, les trackers, c'est quand même c'est vilain, petit méchant, mais d'un autre côté, ça nous rend pas invisible non plus sur Internet, et ça ne nous protège pas de la fraude, si je reviens avec ce petit chapeau-là. Si par exemple, je télécharge un fichier qui est malveillant, un fichier qui a été corrompu, peu importe, ben mes choses sont quand même à risque. Si j'entre mes données de personnel, mes coordonnées bancaires sur un site web qui est monté de toutes pièces, qui est frauduleux, ben le mode incognito, il va quand même envoyer mes informations de l'autre côté. Ça garantit aucune sécurité supplémentaire contre ce type de fraude, ce type de piratage. Donc, comme n'importe quelle méthode, si je continue avec cette mini parenthèse là, comme n'importe quelle méthode de navigation, la vigilance reste de vigueur. Mais effectivement, mode incognito, pour ce qui est plus du volet, les trackers, les cookies, ça reste quand même pertinent. De ton côté, est-ce que tu navigues en tout temps en mode incognito ou pas nécessairement?
Pas nécessairement. Je vais plus aller, comme avec Firefox, effacer tous mes cookies à la fin de la session. Ça revient à un mode incognito, mais peut-être un peu plus brutal à certains égards et peut-être brise certains fonctionnements. Ou certaines habitudes qu'on s'est fait habituer d'avoir que nos sessions, il y a une forme de persistance entre l'ouverture et la fermeture de nos sessions avec notre navigateur. Le fait d'effacer les cookies enlève cette persistance-là. Donc, je dois ressaisir essentiellement mon utilisateur mot de passe et MFA à chaque fois que j'accède à certains sites. Ce que je réussis à atténuer comme irritant avec un gestionnaire de mot de passe, mais quand même, ça brise un peu l'habitude qu'on a, disons, qu'on s'est fait habituer dans les dernières années, mais ça revient un peu à empêcher que je sois traqué à l'aide de cookies. Puis personnellement, j'ai un biais positif face à Firefox au niveau de la protection de la vie privée. Pour moi, c'est le navigateur qui en tout cas présente le plus d'avantages de ce côté-là.
Ouais, navigateur web, donc logiciel installé sur mon ordinateur. Moi aussi, personnellement, j'ai une grosse préférence pour Firefox. Et comme toi aussi, le fait que quand je ferme mes pages Firefox, ben, à ce moment-là, le cache, les cookies, tout est supprimé, tout est délité. Et puis, c'est vrai que ça amène des enjeux, comme tu disais, au niveau du double facteur d'authentification. Que du moment où est-ce que tout est fermé et que tout est supprimé dans la mémoire de mon navigateur, ben, c'est sûr que la prochaine fois que je me reconnecte à mon Facebook, il va falloir que je remette mon courriel, mon mot de passe, puis que je remette le petit code de mon double facteur d'authentification. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients aussi, puis je ramène toujours l'idée que la sécurité, c'est une affaire de compromis. C'est toujours une affaire de compromis. C'est toujours de, OK, j'accepte un certain niveau de sécurité qui vient avec un autre niveau de risque aussi. Je sais que je suis peut-être pas balancée à 100% puis que je suis pas sécurisée à 100%. De toute façon, on se le dit, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Voilà. Mais c'est de dire, bon, ben voilà, au moins j'ai fait un choix. C'est pas de laisser les choses au hasard en disant, oh, ben, ça doit peut-être bien être comme ça. Non, faisons un choix sur ce niveau de compromission qui est acceptable, ce niveau de risque qui est acceptable pour nous, de se dire, bon, ben, à ce moment-là,